rendez-vous avec Jonas Schneider.
On revit l'après-midi la magie des premiers rendez-vous. Notre premier invité est un travailleur à la chaîne. 5 romans en 5 ans. N'allez pas en déduire qu'il est du style à bâcler. Non, il accouche, expulse en travaillant assidûment. Il a 27 ans, mais déjà l'assurance de ceux qui ont 3 fois son âge et sa carrière. Un aplomb d'apparence, en tout cas. Sûrement de ceux qui cachent de profonds doutes. Il le dit lui-même, il faut une bonne dose de vanité pour écrire un bouquin à son âge. Alors 5, je vous laisse imaginer. Notre invité a passé une partie de son enfance sur le continent américain. De quoi hériter d'un goût certain pour les excès. Non seulement il apprécie les univers noirs, mais ses héros se doivent d'être drogués, torturés et d'avoir une sexualité débridée. Un détective ne peut pas seulement être détective, ce serait trop lisse, convenu. Non, un détective doit au moins être cocaïnomane pour apparaître dans un roman de notre invité. Enfin, il aime la provoque. Lorsqu'il chronique dans les journaux ou qu'il intervient à la radio, notre invité semble aussi se nourrir de l'indignation suscitée chez autrui. Notre autre invité en a sûrement un peu assez d'être systématiquement présenté comme la nouvelle Zouk. Sûrement qu'il en va de même pour la dénomination l'ancienne de la troupe française des Deschiens. Mais alors, comment aimerait-elle être présentée? Pas tout à fait non plus comme une humoriste de stand-up. Certes, elle est seule sur scène, le plateau est totalement vide, mais il y a un vrai travail de comédienne, un fil narratif. C'est le théâtre que Tiffany apprécie depuis qu'elle a 4 ans. L'improvisation, les scènes parisiennes, une haute école de théâtre, elle a le parcours des meilleurs comédiens du pays. Un don qu'elle consacre à l'absurde, la poésie, une manière de jouer avec ce qui doit être une expérience aussi étrange que jouissive, l'habitude de faire rire lorsqu'on arrive sur scène. D'abord malgré soi, puis grâce à soi. Le premier est Quentin Mouron, la seconde Tiffany Beauvais-Clamette. Bienvenue dans Premier Rendez-vous.
De 14h à 15h, Premier Rendez-vous.
Bonjour à vous deux, bonjour Tiffany, bienvenue.
Bonjour.
Et bonjour Quentin Mouron, bienvenue. Bonjour. La première question est pour vous, Tiffany Beauvais-Clamette. Racontez-nous un premier rendez-vous qui vous a marqué.
Je pense qu'un des premiers rendez-vous qui m'a marqué, c'est vraisemblablement lorsque j'ai rencontré les créateurs et metteurs en scène de la troupe Les Deschiens.
Ça s'est passé comment?
Ça s'est passé à Paris, dans leurs locaux de travail. C'était une audition. J'étais très stressée et je me souviendrai toujours, c'était le jour d'un match important de Roland-Garros et j'avais fait en sorte de pouvoir aller regarder le match dans un bar avant d'aller à l'audition, ce qui leur avait beaucoup plu, je crois.
L'ambiance du bar convient bien aux Deschiens d'ailleurs, de passer du bar aux Deschiens, on est dans le même univers, non?
Oui, c'est vrai, c'était un bar qui s'appelait le bar Gamma, sauf erreur, à la gare de Lyon, qui était très glauque mais qui retransmettait le match.
Et donc, il y a eu un coup de cœur direct durant cette audition?
Oui, je crois, parce que j'avais les genoux écorchés et une robe verte. Et qu'ils ont trouvé, poétique que cette fille arrive avec les genoux écorchés et quand même une robe. Et que j'explique que je m'étais cassé la figure en faisant de la trottinerbe dans le Valais.
Quentin Mouron, vous, un premier rendez-vous qui vous a marqué?
Moi, je crois que c'était celui avec mon éditeur, mon premier éditeur, Olivier Moratel. Il y a eu d'autres rendez-vous et d'autres éditeurs par la suite.
C'est un Suisse, un chaudefonnier.
Voilà, exactement. Maintenant, il est d'Aulois, je crois que ça se dit comme ça. Il vient de déménager en France, donc il est en train de relancer la maison d'édition en France. Mais c'était assez marquant déjà, parce que toujours un moment assez privilégié. Moi, j'avais mon manuscrit, je l'avais envoyé, j'avais eu des refus, je l'avais retravaillé. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Et là, il me dit, je l'avais croisé une fois dans un bar. Et là, il me dit, ah, mais là, on va se donner rendez-vous, viens, on va au Palace. Je me dis, putain, au moins, il a du fric. Ce qui n'était pas complètement le cas, mais par contre, il avait du talent. Et on s'est retrouvé là, le serveur arrive, il veut prendre la commande, je demande du vin, Moratel me coupe et lui dit « donnez-lui ce qu'il y a de moins cher, de toute façon il boit pour boire, ça se voit dans son livre ». Et ensuite on a commencé, et là je crois que ça a été ensuite 5 ans d'amitié, de très bons partenariats très fertiles.
Pourquoi votre éditeur vous a donné rendez-vous au Palace, il voulait vous impressionner?
Non, je crois que c'était une blague d'une part, parce que ça correspondait tellement pas avec ce que je décrivais dans mon roman, je crois que c'était un trait d'humour. Et puis deuxièmement, je crois qu'il avait envie de fumer un cigare.
Vous avez chacun et chacune 2 minutes pour faire connaissance avec l'autre, c'est ce qu'on appelle le speed dating. On commence avec vous, Quentin Mouron, qui interrogeait Tiffany Beauvais-Clamette. Vous avez 2 minutes pour lui poser un maximum de questions, quand vous voulez.
La plus grande peur?
Mourir.
La première fois?
15 ans.
C'était bien?
Non.
Donc j'essaie de lier les questions. Est-ce que la première fois, la plus grande peur était liée? Pas peur de mourir?
Non, absolument pas. Ouh là là, la psychanalyse, l'angoisse, le désir, tout ça.
Ouais, c'est pas mal. Alors moi, je suis pas psychiatre comme certains invités, quoi. Mais et sinon, Les premières télés, c'était comment?
Les premières télés?
Ouais, première télé ou première radio, enfin premier contact média.
Apeurant, angoissant, stimulant. Et je me rends compte que c'est un métier à part entière qui requiert des qualités que j'aimerais bien avoir.
Et sur scène, il faut être comment? Il faut prendre des trucs avant comme on voit dans les films ou pas?
Non, il faut prendre des fleurs de bar, boire de l'eau, respirer, être vivant.
Comme pour écrire un livre du coup.
J'aimerais savoir.
Encore 40 secondes, Quentin.
Encore 40 secondes, il faut que je trouve. Oh putain, c'est pas si facile. Hein. Alcool préféré?
Gin tonic.
Écrivain préféré?
Je vais me la péter. Non, c'est pas vrai, je vais pas me la péter. Bon, allez, Spinoza.
Ah bah tiens, c'est aussi un des auteurs préférés.
Allez, encore 30 secondes, Quentin. Oui, c'est ça de faire court, hein. Attends, il faut y aller.
Ouais, c'est l'horreur. Alors, bon, écrivain, on a dit. J'essaie de rester sur ma partie. Prochain bouquin.
Prochain bouquin.
Ouais, prochain bouquin à lire.
Que je vais lire. Un philosophe français. Je crois qu'il s'appelle Martin Stephen. C'est qu'il a écrit c'est un philosophe et il a écrit un bouquin sur la joie que sa sœur, qui est comédienne, m'a fait parvenir par poste dans un très joli papier cadeau.
D'accord.
On est au terme des deux minutes. Vous pouvez souffler, Quentin. Bien joué. Vous l'avez fait. Mais du coup, j'ai une question à vous poser sur Tiffany. Tiffany est passionnée par Zouk ou Muriel Robin, mais elle voue un amour inconditionnel à une personnalité américaine. Laquelle, selon vous?
Alors, j'essaie de me débrouiller avec Gin Tonic, Spinoza, 15 ans.
Oui. Maintenant que vous connaissez tout de Tiffany.
Qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que ça pourrait être. Bon, dans les présidents, je vois pas. Dans les hommes politiques non plus, ouais. En général. J'essaie de par élimination. Hein.
Qui ça peut être alors?
Et qui ça peut être? Un Américain? Je peux demander de poser des questions?
Oui, allez-y, vous avez le droit à un indice en tout cas. Qu'est-ce que vous voulez savoir?
Dans quel milieu il évolue? C'est politique, culturel?
C'est plutôt culturel.
Plutôt culturel? Plutôt cinéma?
C'est même showbiz en l'occurrence.
Ah, showbiz.
Pas particulièrement le cinéma, non.
Ah, showbiz, je ne le connais pas tellement.
Lui, à mon avis, vous le connaissez.
Tom Waits?
Michael Jackson.
Mais j'aime beaucoup Tom Waits.
Ah aussi, oui. Bon bah alors c'est une bonne réponse.
J'ai une demi-bonne réponse.
Moi l'info que j'avais c'était Michael Jackson. Un amour inconditionnel à Michael Jackson. C'est ce que vous avez dit une fois, c'est vrai ça?
Oui, oui.
Pourquoi ça?
Parce que...
Ah, c'est en lien direct avec l'objet que vous nous avez
c'est
amené.
C'est en lien direct avec l'objet que j'ai apporté. Parce que je trouve qu'il est fascinant. Parce que j'ai l'impression qu'il est entre plein de choses. Il est... Comment dire? Il est pas vraiment noir, ou en tout cas plus vraiment, pas vraiment blanc. Il joue avec les codes masculins et féminins. Enfin, il a un côté très androgyne. C'est un adulte et un enfant. Il chante des chansons sur la paix, mais il a toujours des signes un peu
guerriers
ou liés à la mafia. J'aime beaucoup l'histoire de mafia, moi. Oui, toujours. Enfin, je trouve qu'il est entre plein de choses. Il a aussi fait un lien entre la musique. Afro-américaine et la musique, comment on dirait, white-américaine.
Oui, c'est ça.
J'adore le hip-hop, le R&B, et il est à la base de plein de révolutions dans cette musique-là.
Donc c'est le personnage plein de contradictions vous adorez.
Oui, je l'adore.
On inverse les rôles. Tiffany, vous avez deux minutes pour questionner l'écrivain Quentin Mouron, quand vous voulez.
Ok, pareil, la plus grande peur.
Je crois que pareil aussi, mourir en tout cas. En tout cas, où est-ce qu'est la mort, disons, ce qui revient un peu au même.
Comment aimerais-tu mourir?
Je crois que j'aimerais pas mourir en fait.
C'est pour ça que t'écris?
Je sais pas, je crois qu'on dit toujours que finalement c'est une forme d'immortalité, mais en même temps j'ai l'impression que quand on est dans un cercueil, on n'a pas grand-chose à foutre d'avoir écrit 5 ou 0 bouquins.
Est-ce que tu regardes Faites entrer l'accusé?
Non, pas à mon souvenir.
Est-ce que tu lis des BD?
Non. Jamais, très rarement.
Est-ce que tu as un auteur préféré?
Ouais, j'aime bien Dostoïevski quand même. Et j'aime beaucoup Spinoza, justement, c'est marrant, on en parlait tout à l'heure, parce que je le redécouvre maintenant, en fait. Je me suis repris l'éthique l'autre jour, et c'est déjà un livre formidable. C'est un livre. Il y a un Abin Flaubert qui est mort en le lisant. Il disait que c'était une manière de soulager avant la mort. Et donc là, je trouve que. Je pense que si. Je sais pas comment j'aimerais mourir, mais je pense que si j'avais l'éthique dans les mains, en tout cas, les choses iraient un tout petit peu moins mal.
Quelque chose dont tu as honte?
Oh, pas mal de choses, mais en général, j'en parle pas à la radio.
Encore 30 secondes.
Ouais. Un rêve inaccessible.
Inaccessible, je sais pas. J'essaye de pas trop. J'ai toujours des petits fantasmes, des petites envies, mais en général, j'essaie que ça reste dans une sorte de cercle accessible. Ça me permet de garder la maîtrise sur les choses.
Protestant.
Ça, c'est déduit de la dernière question. Non, je suis pas baptisé.
Vaudois.
Oui, ça résolument.
Bon, protestant alors.
Encore 10 secondes, dit Fanny.
Très bien. Ta couleur préférée dans la nourriture.
Ah, c'est original ça.
Dans la nourriture. On connaît bien rouge.
Je crois que c'est bon. Ouais, il y a la réponse. Merci Tiffany, merci Quentin. Du coup, j'ai une question à vous poser, Tiffany, sur Quentin Mourant. Lorsqu'il parle de l'écriture de son premier roman, Quentin explique qu'il s'y est mis à force de faire quelque chose. Mais de faire quoi ? Il s'est mis à écrire son premier roman à force de faire quelque chose, mais de faire quoi ?
Alors, ça pourrait être à force de lire.
Mmh.
Ça pourrait être à force d'avoir peur de mourir. Mmh. Et ça pourrait être à force de faire une activité physique.
Ah oui ?
Parce que quand on fait une activité physique, en fait, ça libère la partie du cerveau qui peut construire, penser.
Donc vous voyez Quentin Mourant, son écharpe et ses cheveux longs, pratiquer une activité physique.
Oui.
Je suis déjà monté jusqu'au premier à pied, donc on va quand même.
C'est déjà pas mal, ça compte.
Ah, à force de boire, vous voudriez que je dise.
Non, ce n'est pas ça. C'est à force de dire qu'il allait écrire un roman. Et il s'est dit, ça commence à faire longtemps que je dis que je vais écrire un roman. Il faut donc que je lui mette, sinon je vais passer un peu pour un guignol. C'est vrai? C'est ça l'histoire?
Non seulement c'était vrai, mais en plus les réponses, à part l'activité physique, étaient aussi assez vraies. C'était aussi à force d'avoir peur de mourir. C'était aussi à force de lire aussi. Mais c'est vrai que c'était quand même. Et aussi à force de m'emmerder, parce que j'étais dans un coin un peu particulier des États-Unis où il n'y avait plus grand-chose à faire, mais c'était surtout, en effet, parce que j'en avais parlé, qu'on commençait à m'emmerder en me disant, mais ça vient quand ton bouquin? Alors du coup, j'ai dit, bon, j'écris un bouquin, on me foutra la paix, puis ensuite, ça sera réglé. Et finalement, ça s'est réglé, mais ensuite, il y en a eu 5 autres.
Bon, vous avez tous les deux commencé à parler de la mort dans cette émission, c'est quoi? C'est un truc qui vous travaille particulièrement? Vous êtes parmi les plus jeunes invités, hein, et ils commencent à parler de la mort. C'est particulier quand même, non, Tiffany?
Bah oui, mais moi je sais que c'est quelque chose qui m'obsède depuis que je suis toute petite. La mort des autres et ma propre mort, c'est quelque chose qui m'obsède.
Quentin, c'est votre cas aussi ?
C'est pour rendre l'émission un petit peu moins légère que d'habitude.
Non, c'est
non, mais je crois que c'était. Non, mais je crois que c'était vraiment. Ça s'est fait par hasard. Et puis
c'est
finalement...
pour vous donner un genre un peu torturé, c'est ça ?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que je crois que les moments où on pense le plus à la mort, c'est pas quand on se donne un genre, c'est pas quand on a un blouson en cuir, c'est pas quand on est sur scène. C'est plutôt, au contraire, la scène, j'imagine, ou en tout cas l'écriture enlève ce. En tout cas, ça fait une sorte de placebo, donc c'est plutôt quand on est sous la douche à poil, et c'est pas forcément là qu'on se donne un genre. Donc c'est. Je crois que c'est venu vraiment fortuitement, et c'est vraiment des peurs que. Qui, je crois, habite d'ailleurs la plupart de vos auditeurs. Donc finalement, on fait une forme de populisme médiatique. Mais enfin, c'est et je suppose que vous aussi, vous avez aussi ça qui vous tracasse. Donc je pense que c'est une peur ancienne. Et c'est vrai que quand on peut en parler, je trouve que ça, c'est toujours intéressant, disons, de pas avoir peur, d'avoir peur à plusieurs.
J'interromps un instant votre discours sur la mort pour écouter un titre de musique, si vous le voulez bien. C'est un titre qu'on a choisi pour vous, Tiffany, François Morel et Yolande Moreau, dans le titre « C'est normal ». Pourquoi François Morel et Yolande Moreau ? Parce que ce sont deux membres de cette troupe, les Deschiens, dont Tiffany Beauvais-Clamette a fait partie.
François !
Qu'est-ce qu'il y a ?
J'ai entendu un truc bizarre.
Si.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois, il y a des fuites, alors ça s'accumule, et puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal.
Oh.
Et qui dit explosion, dit détonation. D'où le bruit que tu as entendu tout à l'heure. Voilà.
Ah ouais, ouais.
Il y a eu une explosion.
Oui.
Et l'agitation moléculaire due à cette explosion, l'agitation moléculaire,
ah ouais,
provoque une élévation thermique suffisante pour enflammer les matières environnantes.
Oui, oui.
C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal.
Ah.
Tourment.
Oui, oui.
Premier rendez-vous sur la première, un point sur le trafic.
Infotrafic, RTS.
En ville de Lausanne, le trafic est difficile sur la route de Berne entre Lausanne-Veynes et le chemin de Boissonnais suite à deux accidents et un déversement d'hydrocarbures. Il est conseillé d'éviter ce secteur. Sur l'axe Chiasso-Lucerne, un bouchon de 5 km s'étend entre Quinto et l'entrée du sud du tunnel du Gothard, en direction de Lucerne, ce qui correspond à 1h15 d'attente environ. Il est conseillé d'utiliser un parcours alternatif par l'axe du Simplon ou par l'axe du Grand Saint-Bernard.
Deux invités en une heure, leur premier rendez-vous.
Mais c'est normal.
Oui, d'accord.
François,
qu'est-ce qu'il y a encore?
Tu sens pas comme si on commençait à tomber là un peu?
Mais écoute, essaie de comprendre, c'est très simple.
Oui.
Tu te souviens la combustion?
Oui.
La destruction de l'immeuble par les flammes?
Oui.
Bon, ça veut dire qu'en dessous, les murs et les étages ont disparu. Et que nous ne sommes plus soutenus par rien. Or, une chose qui n'est plus soutenue par rien tombe. C'est ce qu'on appelle la pesanteur. C'est normal.
Ouais. Mais alors, on va tomber?
Mais oui.
Du 15e étage.
C'est tout à fait normal. C'est l'attraction terrestre.
D'accord. Mais moi je pense à un truc.
Oui.
On ne va pas mourir dans une minute.
Yolande, tu es fatigante.
Pardon?
Donc, on est en train de tomber.
Oui.
Or, tout corps tombe à une vitesse définie.
Oui.
Et en arrivant au sol, il subit une décélération violente qui amène la rupture de ses différents composants. Par exemple, les membres se séparent du tronc.
Oui.
Le cerveau jaillit hors de la boîte crânienne, etc.
Oui.
Dans ces conditions de déconnexion, il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir. C'est normal. Tu comprends?
Ah oui.
Tu as d'autres questions?
François Morel et Yolande Moreau avec l'idée que tout est normal même si en fait tout va mal. C'est un titre de Brigitte Fontaine à l'origine. Il vous parle ce titre, Tiffany Beauvais-Clamette? L'idée qu'on reste totalement calme dans une situation catastrophique.
Je sais pas si on reste calme, mais c'est intéressant parce que tout à l'heure je devais écrire mon dossier de diffusion pour mon spectacle. Je me suis rendu compte que une des choses que je crois que je traite un peu dans mon spectacle, c'est que dans des situations catastrophique, finalement, on reste très maladroit et on a des obsessions assez triviales et que pour des événements assez triviaux et quotidiens, on met une énergie folle et plein de grandeur. Voilà.
Les événements quotidiens, manifestement, c'est ce qui vous anime, c'est ce qui anime aussi une partie de votre spectacle. Alors on disait, c'est pas tout à fait un one-woman show, parce que ça donne l'impression que c'est du stand-up, c'est pas tout à fait ce que vous faites. En fait, c'est un spectacle de théâtre où vous êtes toute seule sur scène, et vous vous intéressez aux événements quotidiens. C'est pas extraordinaire ce que vous racontez?
Non, je crois pas que... Bah en fait, c'est pas extraordinaire a priori.
D'accord.
Sauf que je pense, moi, que tout événement peut être extraordinaire, pour autant qu'on porte un regard sur le monde, un regard étonné, tendre et curieux. Voilà.
Ça vous parle tout ça, Quentin Mouron?
Oui, ça me parle déjà avec le... Je trouve déjà pour le roman, c'est une base. Hein, depuis, on écrit parfois sur des choses extraordinaires, mais vous savez, les plus mauvais romans, c'est quand au bout de deux pages, il y a déjà 12 morts, tout le monde explose. Ça, c'est l'horreur. Un grand roman, en général, il se passe très peu de choses, et justement le regard que va porter l'écrivain sur ce peu de choses-là va faire toute la magie d'un roman. Tout le monde pleure et est terrorisé à la fin de Madame Bovary, quand il y a le suicide d'Emma Bovary. En revanche, quand on lit, je sais pas quel polar où tout le monde est mort dans les 10 premières pages, on compte les morts. C'est comme dans les séries. Au bout d'un moment, on regarde, celui-là, il lui manque la tête, celui-là, les deux jambes. Ça n'émeut absolument pas. Ça ne fait pas réfléchir. Ça ne transporte pas. Et je pense que, justement, tout l'art, c'est de réussir à rendre, à faire énormément de tapage, si j'ose dire, autour d'un événement parfois simple, mais qui peut être tragique, mais qui souvent est simple. Quand on commence à avoir trop de composés, soit c'est vraiment assumé, ça devient baroque et ça devient très drôle. Mmh. Soit ça rate.
Pourtant, ce qu'on souligne dans vos romans, c'est l'aspiration un peu trash parfois.
Oui, on le souligne un peu à mauvais escient, à mon avis, parce que si on regarde, c'est en tout cas pas un trash des descriptions. Je me complais pas vraiment dans les descriptions morbides, déjà parce que j'ai jamais vu de cadavre découpé, que je sais pas à quoi ça ressemble et que j'ai pas forcément envie de taper sur Internet. Donc, non, j'ai pas vraiment, il y a pas vraiment de trash, je crois qu'on en parle vraiment, c'est, comme j'avais un blouson en cuir, on s'est dit, ça va rentrer dans le côté trash, ça va aller, ça va être le, mais non,
c'est
finalement.
C'est un cliché trop facile, c'est
oui,
ce que vous
voulez
dire.
Oui, je crois qu'en plus, et dans mon prochain livre, je me moque d'ailleurs, il y a un des personnages principaux, c'est la poétesse trash, qui se fait appeler Vagina. Et c'est vraiment une parodie de cette espèce de surenchère dans l'immonde qui finalement ne devient absolument pas immonde et devient simplement burlesque.
Mm-hmm. Oui, c'est intéressant. Tiffany, vous, on n'est pas du tout dans le trash a priori. La trame du spectacle, en fait, c'est une soirée de gym, c'est ça?
C'est la, oui, si on veut, c'est devenu ça. À la base, en fait, j'ai travaillé en faisant beaucoup d'improvisation qui partait de désirs, de souvenirs, d'obsessions que j'ai depuis longtemps. Et puis, on s'est rendu compte que revenait souvent ce thème de la soirée de gym, parce que j'ai grandi à Bussigny, et il y avait la FSG, et je faisais partie des pupillettes.
Donc, c'est la proche banlieue lausannoise, on est dans
tout
une atmosphère
fait,
un peu de village.
Tout à fait.
Et
dans
un des
une
événements
société...
de l'année, c'est la société de gym qui organise son
voilà.
spectacle.
Et dans chaque société locale, en fait, si on observe, on remarque qu'il y a un peu tous les rapports qu'on trouve dans les plus hautes sphères, en fait. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est pas tellement la soirée de gym, mais c'est les rapports humains et l'application que mettent ces gens pour faire un événement amateur.
Très bien. Et ça, finalement, pourquoi ça vous a particulièrement inspiré?
Mais parce que les plus petits drames, les plus petits événements comportent toute la grandeur des grandes tragédies et des grands événements.
Parce que vous nous confiez juste avant l'émission le trac que vous avez avant de monter sur scène.
Oui.
Et donc là, on peut imaginer effectivement qu'on est dans un petit événement à force de monter sur scène. Mais enfin, c'est quelque chose de quotidien et qu'il y a toute la tragédie qui est liée à ça, c'est-à-dire la crise de trac qu'on peut faire avant. C'est votre vie, ça?
Oui, tout à fait. Je monte régulièrement sur scène, mais à chaque fois que je monte sur scène, je suis persuadée que le pire peut m'arriver et il faut que j'ai cette crise de trac, je pense, pour...
Mais ça se traduit comment, ça?
Eh bien, par le fait que je fatigue les gens autour de moi, que je leur demande beaucoup de soutien, je leur demande de me promettre que je ne vais pas mourir, je leur demande de prévoir d'appeler une ambulance au cas où. Ça se traduit par le fait que je fais des allers-retours, que je brasse beaucoup d'air, que je me sens très fatiguée. Enfin voilà.
Vous faites beaucoup de mal, en fait.
Je crois que je me fais beaucoup de mal.
Parce qu'il faut imaginer, j'ai de la peine à décrire la table de ce studio cet après-midi. Alors devant le jeune auteur Quentin Mouron, on a évidemment un verre de blanc vide. Et puis du côté de Tiffany, par contre, on a, je sais pas, une bouteille de Rescue, c'est ça, au cas où il vous arrivait quelque chose de terrible?
Complètement.
D'accord, oui. Donc vous êtes prête à ce qu'il vous arrive quelque chose de terrible cet après-midi sur la première?
Mais non, absolument pas. C'est juste que c'est...
Au cas où?
Oui, je gère l'inconnu avec quelque chose qui me rassure. Mais maintenant, tout va bien, j'en prendrai pas de ce Rescue.
Très bien. On observera attentivement la bouteille. On a choisi un titre particulier pour vous, Quentin Mouron. Non pas que le précédent ne l'était pas. Là, en l'occurrence, c'est Jacques Kerouac. Vous connaissez évidemment Jacques Kerouac, poète.
Mais je l'ai jamais lu. C'est une autre attribution. On m'a même invité à des tables rondes pour parler de Jacques Kerouac, mais je ne l'ai jamais lu.
C'est pas grave. Là, vous allez l'entendre. Il récite avec Steve Allen et Charlie Parker. Écoutez ça.
Charlie Parker looked like Buddha. Charlie Parker, who recently died laughing at a juggler on TV, after weeks of strain and sickness, was called the perfect musician. And his expression on his face was as calm, beautiful, and profound as the image of the Buddha represented in the East. The lidded eyes, the expression that says, all is well. This was what Charlie Parker said when he played, all is well. He had the feeling of early in the morning, like a hermit's joy, or like the perfect cry of some wild gang at a jam session, wail, whop. Charlie burst his lungs to reach the speed of what the speedsters wanted, and what they wanted was his eternal slowdown. A great musician and a great creator of forms that ultimately find expression in mores and what have you. Musically as important as Beethoven, yet not regarded as such at all. A genteel conductor of string orchestras in front of which he stood, proud and calm, like a leader of music in the great historic world night, and wailed his little saxophone, the alto, with piercing clear lament, in perfect tune and shining harmony, toot, as listeners reacted without showing it, and began talking, and soon the whole joint is rocking and talking, and everybody talking, and Charlie Parker whistling them on to the brink of eternity with his Irish St. Patrick patoodle stick. And like the holy miss, we blop and we plop in the waters of slaughter and white meat and die one after one in time. And how sweet a story it is when you hear Charlie Parker tell it, either on records or at sessions or at official bits and clubs, shots in the arm for the wallet. Gleefully, he whistled the perfect horn. Anyhow, it made no difference. Charlie Parker, forgive me. Forgive me for not answering your eyes. For not having made an indication of that which you can devise. Charlie Parker, pray for me. Pray for me and everybody. In the nirvanas of your brain where you hide, indulgent and huge, no longer Charlie Parker, but the secret unsayable name that carries with it merit not to be measured from here to up, down, east, or west. Charlie Parker, lay the bane off me and everybody.
Ben voici ce titre qu'on a choisi pour vous, Quentin Mouron. C'est dit jeune auteur roman. Ça va lui faire plaisir d'entendre la voix récitante de Jacques Kerouac. C'est le cas? Dites oui.
Oui, oui, oui. Non, mais je connaissais pas en plus.
Vous connaissiez pas?
Non, pas du tout.
Donc vous avez écouté attentivement maintenant, alors.
Très attentivement.
Voilà. C'est le début. Vous allez l'apprécier. Vous êtes invité avec la comédienne Tiffany Beauvais-Clamette. Je me disais, vous deux, vous avez un univers qui, à mon avis, se complète et qui est tout à fait intéressant. Vous êtes pas deux guélurons, je crois qu'on peut le dire franchement. Mais vous avez quelque chose d'assez bien caché, finalement. Quentin, vous êtes profondément dépressif. C'est ce qu'on peut se demander, des fois, quand on voit vos apparitions médiatiques, quand vous faites des chroniques dans les journaux. En général, c'est pour faire de la provoque et pour dénoncer la noirceur d'une partie de ce monde. Quand vous écrivez un bouquin, on est encore dans un univers plutôt noir. On se fait du souci pour vous?
Non, mais moi je danse au bord de l'abîme. Je crois que je suis un type assez drôle finalement. Mais
danse au bord de l'abîme.
Oui, c'était une phrase d'auteur, vous pouvez la noter. Et donc forcément.
On en fera des t-shirts.
Oui, mais je pense que ça pourrait intéresser. Ça sera mieux que RTS première. Enfin,
et, on se calme. Oui.
Pardon. Et, non, mais forcément. Mais je crois qu'il y a de toute façon, les gens qui sont complètement cynistes sont parfois très légers aussi. Et moi, c'est le contraire. Je crois que je suis plutôt drôle et plutôt léger, plutôt sympathique. Ensuite, il peut y avoir bien sûr une noirceur, mais ça n'empêche pas le rire. Et je pense que le rire peut être tout à fait complémentaire d'une dimension tragique ou d'un sérieux. Je pense qu'il y a plein de livres très drôles qui sont à prendre au sérieux, plein de livres sérieux dont on doit rire et rire méchamment. Donc moi je pense que les deux choses sont liées. Disons, ça détermine pas un personnage, ça veut pas dire que je suis un type sinistre et lugubre tout le temps. Je suis pas un grand optimiste, que ce soit pour ce qui se passe actuellement dans le monde, mais même pour des choses plus proches, plus humaines. Je suis jamais un grand optimiste, je suis même un anxieux, mais ça dépressif je crois pas, non dépressif. Non, parce que j'ai pas ce côté abattu que peuvent avoir les dépressifs, ce côté je renonce à rien pour l'instant, donc je crois pas que je me considère encore comme dépressif et j'ai pas l'impression que je vais le devenir.
On est rassuré, tant que vous dansez. Tiffany Beauvais-Clamette, vous nous disiez hors antenne, j'ai une tête tragique, c'est ça qui fait rire. Donc il y a un côté tragique que vous utilisez sur scène pour faire rire.
Non, mais oui, je sais pas si c'est...
Je sais pas ce que c'est une tête tragique, vous allez peut-être nous le dire.
Non, j'ai hors antenne, j'ai dit, je suis pas un rayon de soleil. Ça
oui.
que j'ai dit.
Oui.
Et je pense que je crois que j'ai des traits qui peuvent être durs ou perçus comme tragiques et que ça participe, j'imagine, de du côté comique qu'on peut voir en moi, mais je le maîtrise pas entièrement. Je peux pas maîtriser ça. Moi, ce que je maîtrise, c'est le jeu. Enfin, c'est ce que je donne de moi, mais je peux pas maîtriser.
Bon, en tout cas, vous êtes allé dans cette direction, puisque la troupe des Deschiens utilise aussi ça. C'est pas des guélurons, ils font rire avec un côté tragique. Et puis, en plus de ça, c'est reçu aussi par le public de cette manière-là. Quand on vous compare à Zouk, là encore, on est dans cet univers-là. On est dans l'univers du tragique qui fait rire. Donc, à voir, ça fonctionne.
Oui, ça fonctionne.
Mais ça se travaille, c'est un genre qu'on se donne quand on est chez les Deschiens, par exemple. On se dit, tiens, on va devoir jouer de cette manière-là. Il va falloir jouer un petit côté misérable parce que c'est ça qui fonctionne.
Non, pas du tout. Je pense que je suis profondément misérable de base et puis que c'est ça qu'ils ont perçu en moi. Non, mais je vois pas comment on peut volontairement créer ça. Mm-hmm. Après, peut-être que j'ai de la chance d'avoir rencontré des gens et d'avoir pu faire ce que je sentais que j'avais envie de faire et que ça fonctionne bien avec... mon physique, ou peut-être que mon physique m'a poussé vers ces choses-là, je ne sais pas.
Je ne sais pas, on résoudra ce problème une autre fois, on va parler des objets que vous avez apportés dans ce studio. On commence avec vous, Tiffany, on en a brièvement parlé quand on disait votre amour de Michael Jackson. Qu'est-ce que c'est ?
Alors j'ai apporté le billet que j'avais pour aller le voir au stade de la Pontaise, j'arrive même pas à lire, le 23 juin 1997.
Michael Jackson à Lausanne.
Voilà, et j'ai gardé ce ticket pendant 20 ans, et je l'ai mis sous cadre. Voilà, et j'ai apporté cet objet parce que, effectivement, je pense que Michael Jackson est très important dans ma vie.
Pourquoi ça vous fait rire ?
Mais je sais pas, parce qu'en fait...
Ça sonne comme une confession.
Oui, puis il y a comme un truc mainstream, en fait, chez Michael Jackson, mais depuis que je suis... En fait, j'écoute Michael Jackson depuis que je suis toute petite. Et je crois qu'il y a que les fans qui peuvent comprendre ce que je ressens. Il a une forme de colère dans son énergie. Il a un truc tragique aussi dans sa manière de danser, mais qui sublime en faisant des choses efficaces, belles, nouvelles, un peu non-genrées. Ça me fascine. En fait, je me sens très proche de Michael Jackson.
Bon, vous étiez très jeune à oui. La Pontaise en 97, vous avez quel âge ?
J'avais 13 ans.
Plus d'une dizaine d'années, ouais, 13 ans, c'est ça ? Quand vous revoyez ce billet jauni, vous vous souvenez de quelle image à La Pontaise, vous, 13 ans ?
Je me souviens de quand il est sorti de la scène dans une fusée. La fusée montait de la scène et elle est restée fermée très longtemps et on hurlait. Et tout à coup, la porte s'est ouverte et on a hurlé. Après, il est sorti de la fusée, on hurlait parce qu'il avait un masque. Et après, il a enlevé son masque. Et là, moi, j'ai cru défaillir. Et en fait, c'est le plus beau spectacle que j'ai vu de ma vie. C'est tellement efficace. C'est tellement bien.
Et pourtant, en faire des caisses sur scène, avoir plein de décors, de couleurs, etc., c'est pas la direction que vous avez choisie, hein.
Non, absolument pas. Mais, je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression qu'il est dans un truc tellement, juste. Je n'arrive pas à expliquer.
Bon, on va fermer la parenthèse Michael Jackson, mais qui est intéressante. Quentin Mouron, qu'est-ce que vous avez apporté ?
Moi, j'ai amené mon blouson, déjà, parce que j'avais de toute façon l'intention de le mettre ce matin. Donc Le blouson de cuir, qui était mon cadeau d'anniversaire, un cadeau de mes 16 ans, et que j'ai gardé depuis.
Alors, tous les portraits qui vous ont été consacrés dans la presse, et on a quand même maintenant une petite flopée depuis 5-6 ans que vous avez sorti votre premier roman, tous les portraits commencent par ce blouson en cuir.
À peu près. De temps en temps, je mets une petite veste un peu élégante, c'est quand ma copine m'invite au restaurant, mais sinon, c'est vrai que j'ai souvent mon blouson en cuir.
Pourquoi ?
Il est confortable, il est solide, il tient encore le coup.
Mais qu'est-ce qu'il dit de vous ? Manifestement, il est central dans une description de qui vous êtes.
Mais je crois que c'est encore une fois, c'est aussi une construction. Moi, il est pas central, je le mets. Donc c'est vrai que si j'avais toujours des Birkenstock avec des chaussettes blanches, peut-être que ça aurait été ça qu'on aurait pris. J'aurais peut-être amené d'ailleurs. Là, il se trouve que c'est mon blouson en cuir que j'ai toujours bien aimé mettre et que je continue à mettre. J'ai peu changé de vêtements depuis mes 15 ans. Donc j'ai toujours l'impression que je suis toujours en noir avec un blouson. C'est pas que je fais exprès, mais c'est que c'est plus facile dans les magasins. Et puis
pour tout révéler quand même, quand notre photographe est venu vous photographier tout à l'heure, vous avez demandé à porter votre blouson en cuir sur la photo. Absolument. Ça, c'était pas un hasard.
Non, ça, c'était
vous
pas un hasard.
Vous l'utilisez quand non, même, Quentin.
Mais oui, mais c'est parce qu'il me va très bien. C'est parce que d'une part, il tranche un tout petit peu avec ce qu'on voit d'habitude des auteurs qui ont souvent un look à peu près défini, soit volontairement informe, même agressivement informe parfois, pour essayer de montrer qu'on s'en fout absolument. Donc, je pense qu'on doit, on va faire encore attention d'avoir bien mêlé les couleurs de chaussettes pour bien montrer qu'on s'en fout. Et, mais donc, moi, c'est vrai que c'est pas mon cas. Je pense qu'il y a aussi d'ailleurs une question d'image. Quand on propose un livre, si on est encore vivant, ça veut dire qu'on le propose aussi à la presse, qu'on le propose aux lecteurs, on le propose par le biais d'images, et je pense que ça, moi, c'est quelque chose qui m'a servi.
Vous avez posé tout à l'heure une question à la comédienne Tiffany Beauvais-Clamette dans le Speed Dating. Vous lui demandiez, et c'est une question qu'on pourrait vous retourner, vous lui demandiez comment se passait le premier contact avec les médias. Manifestement, ça vous travaille. La première télé, c'était la question que vous lui posiez. Ça vous travaillait tout ça en tant que jeune auteur en Suisse romande? La première télé, c'est important?
La première télé, j'étais malade comme un chien. J'étais bourré de médicaments. C'était pour le 12-45. Je me suis bourré de médicaments pour essayer de tenir. Après, j'ai vu que ça marchait pas. J'ai bu deux bières par-dessus. Je m'en rappelle pas tellement, mais je crois que ça a été très bien. On m'a beaucoup complimenté. Donc, je crois que c'était quand même une bonne affaire finalement. Et on m'a redemandé par la suite de venir à cette émission, enfin au téléjournal. Donc,
et c'est important pour vendre des livres?
Le téléjournal marche bien, ouais, pas tous les médias. C'est un peu, quand on parle de perte de vitesse, c'est pas que non forcément que les lecteurs sont ou les auditeurs sont moins nombreux, mais c'est aussi qu'ils sont peut-être moins réceptifs, en tout cas qu'ils attendent moins l'avis prescripteur du critique. Mais c'est quand même important, bien sûr. C'est déjà, oui, c'est important quand même. Je pense que ça permet aussi même d'entrer, parce qu'il y a encore quelques bons critiques, Dieu merci, qui travaillent dans les médias, et c'est intéressant de se positionner par rapport à quelqu'un qui a pris le temps de lire votre livre, qui n'est pas de votre famille, surtout au début, donc il va pas vous dire c'est génial, mon petit chou. Ça, c'est important. C'est une confrontation qui est vraiment importante. Et puis même, forcément, faut pas mentir, hein. C'est important pour vendre des livres, c'est important pour être invité dans d'autres, rien que dans d'autres émissions, puisque vous écoutez beaucoup parmi, ce qui est normal d'ailleurs. On veut voir comment résiste quelqu'un à l'épreuve de la télé ou de la radio avant de pouvoir éventuellement l'inviter sur une émission plus importante. Donc c'est des choses qui...
Donc pour être auteur, il faut être télégénique.
Oui, en tout cas, en partie pour être lu, je pense que c'est une, en tout cas, oui, je pense qu'il faut, c'est malheureusement peut-être, mais je pense que c'est important.
Tiffany, on a choisi un titre qui convient sûrement un peu avec votre univers, l'idée de l'anodin, des miettes sur le canapé, et c'est Fanny de Poule sur la première.
D'un cendrier, quelques verres de tequila renversés sur le parquet. Une liste d'idées noires jetées par terre et chiffonnées. Il y avait des restes pour l'heure du dîner. Une belle assiette emballée dans du papier d'alu doré avec une drôle d'odeur qui débordait sur les côtés. La bouffe était vivante, chronique d'un repas oublié. Il y avait des cheveux dans le lavabo. De brosses à dents enlacées, un dentifrice saveur coco, quelques bouteilles de parfum alignées comme des dominos, une lettre écrite à la main avec des insultes au verso. Y avait trop d'eau dans le gaz et pas assez dans le vin. C'était écrit en majuscule, tu n'es pas tout, je ne suis pas rien. Les moments tombés dans mon corps, j'ai le cœur qui perd la tête et mes pensées qui se déchirent comme un ciel zébré de comètes. Cheminée et les cendres d'une histoire qui était partie en fumée. Une boîte fermée à clé était déposée dans le feu. Sur le couvercle c'était gravé nos plus beaux souvenirs à deux. Il y avait des larmes sur un oreiller et des rêves collés au plafond par centaines et par millions. Les rancœurs d'un amour blessé, les reproches pas digérés qui ressuscitaient dans le noir. Une fois la nuit tombée, il y avait du vent dans les marronniers faisait danser les feuilles dorées par la fin de l'été, pendant que les tempêtes en mer jetaient les vagues sur les rochers et que les poumons de son cœur buvaient la tasse à sa santé.
Ah, t'es vide, t'es creuse, t'as pas de cœur.
Il y avait des cris dans un hall d'entrée, des baffes perdues, des coups manqués, des valises pleines à craquer, des clés rendues, une porte claquée, un dernier cadeau lancé, enroulé dans du satin, à déballer dans l'escalier. Il y avait une bague dans une fleur séchée et sur chaque pétale replié, au crayon noir c'était noté. Même si parfois le temps nous fane, les hivers finissent par passer, devient l'étincelle de ma flamme, veux-tu bien m'épouser ?
C'est une Suissesse, Fanny Dickerson sur son nom, et c'est donc Fanny de Poule en un mot. Qu'est-ce que vous racontez? Tiffany Beauvais, Clamette et Quentin Mouron sont nos invités sur la première jusqu'à 15h. On va jouer au qui a dit, si vous le voulez bien. Oui. Tiffany, Quentin, ce sont des phrases de vous dans la presse. On verra qui a dit quoi. Qui a dit « Je vis bien ce succès ». De qui est-ce une phrase dans la presse ? Je vis bien ce succès. Tiffany désigne immédiatement Quentin. Pourquoi ça ?
Parce que je vis pas des succès. Non, parce que je m'imagine...
Parce que vous vivez tout très mal, surtout.
Non, mais parce que je m'imagine mal dire une phrase de cette manière.
D'accord. Je vis bien ce succès. Est-ce que c'est bien du Quentin Mouron ?
Ouais, je sais pas ce que ce succès reprend, donc oui, mais je pense, ouais, ça pourrait être moi.
C'est dans l'Impartial, au sujet de l'après-premier livre, en février 2012. Vous dites, ah bien sûr, je vis bien ce succès.
Ouais, ça
vous vous souvenez du contexte?
Non, pas complètement, mais je crois que c'était ça devait être le succès du bouquin, j'imagine, parce que j'ai pas vraiment tourné sur les pornes télé cryptées, donc je pense que ça doit plutôt être pour
plaît.
Le bouquin.
Oui. Pardon.
Et donc ouais, je pense que ça doit être ça, et c'est vrai que je vis toujours bien d'ailleurs.
Très bien. Qui a dit je suis plus bulldozer?
Moi.
Tiffany. Bulldozer, ça veut dire quoi?
Mais j'ai dit je suis plus bulldozer que jolie princesse. C'est
oui.
Ce que j'ai dit. Bah ça va avec je suis pas un joli rayon de soleil quoi. Je sais pas
vous
comment expliquer.
Je suis pas, je crois, ce
qu'on attend d'une femme. Mais en même temps, qui attend quoi des femmes? Je sais pas, mais dans ma perception en tout cas, quand j'étais enfant et adolescente, j'avais l'impression que j'étais pas ce qu'on attendait d'une fille. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça.
Alors il y a un terme un peu niais qui est consacré dans le showbiz, quand une femme fait un show surtout d'humour, on va dire oui, c'est un spectacle girly. Et c'est vrai qu'on n'imagine pas tout à fait votre spectacle comme un spectacle girly.
Non, je crois pas.
Oui.
Mais je crois que si...
Mais vous avez essayé de l'être parce qu'on pourrait se dire, tiens, je vais essayer de partir dans cette direction-là, d'être très féminine, début de carrière de comédienne.
Mais je peux être très féminine. Je l'ai déjà été dans des pièces, en fait. C'est pas le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est ce que les gens ont besoin... de dire sur moi, et le problème c'est les étiquettes, et le problème c'est que ça arrange tout le monde de te dire un peu, ah oui, elle est comme ça, mais je peux être très féminine, je peux être un camion, je joue un homme dans mon spectacle, enfin des hommes, je joue des vieux, des jeunes. En fait, je suis comédienne, je peux tout faire. Non, mais enfin, et même, en fait, je crois que j'aimerais un peu tout être. Donc.
Mais quand vous dites je suis plus bulldozer, vous ne dites pas je fais plus le bulldozer. On parle pas de la comédienne là. Vous dites je suis.
Oui, c'est vrai. Je pense que je peux avoir des fois une énergie qui manque de douceur.
Très bien. On enchaîne. Qui a dit « Elle ne voulait pas me donner de conseils et moi, je n'avais pas envie d'en recevoir. » C'est du Mouron, ça.
Oui,
c'est l'assurance de Quentin Mouron. Avec qui, vous vous souvenez?
Avec Anne Cuneo.
Avec Anne Cuneo.
C'était avec Anne Cuneo, en effet. Et c'était pour ça que ça s'est très bien passé entre nous. Plein de gens me disaient, mais j'ai entendu dire qu'elle avait un caractère un peu difficile. Moi, au contraire, je trouvais que c'était une personne absolument charmante qui m'a en plus... aujourd'hui, si je suis publié en... Et je vais être encore traduit en allemand, c'est grâce à elle. C'est elle qui m'a présenté à son éditeur. Elle a fait beaucoup de choses pour moi. J'espère pouvoir avoir pu faire au moins un petit quelque chose pour elle. Et puis, c'est vrai qu'on s'est super bien entendu. C'était, je crois, un tandem qui était vraiment, qui avait rien d'un truc de donneur de leçons chiant où j'aurais attendu. Elle avait absolument pas. Je me rappelle, on est arrivé dans un bar et puis moi, je m'attendais à ce qu'elle me donne des conseils. Puis elle me dit, ah, mais tu veux manger quoi? Je te conseille le tartare. C'est le seul conseil qu'elle m'a donné. Et pour moi, ça allait très bien. J'avais juste envie de me faire conseiller le tartare et puis qu'on parle de ses livres, qu'on parle des miens, qu'on parle de choses. Et c'est ça qui a fait que notre relation, qui était brève, mais était vraiment, vraiment, ça me rappelle d'excellents souvenirs.
Mais ça va peut-être surprendre nos auditeurs. Jeune auteur d'une vingtaine d'années, vous rencontrez Anne Cuneo, qui est considérée ici comme une référence de la littérature romande. On s'attend effectivement que le jeune auteur d'une vingtaine d'années pose des questions, demande des conseils.
Non, parce que non, c'est pas. Moi, je préférais qu'elle me raconte quand on passait vers la cathédrale qu'elle l'avait escaladée pendant la guerre du Vietnam, que là, elle a envie de faire sauter cette place à coups de dynamite parce qu'elle était moche, et puis que Lausanne, voilà. Ça m'intéresse. Et puis là, on discutait de choses, de choses intéressantes sur la littérature. Je crois pas qu'on peut vraiment apprendre à écrire des. On peut apprendre à écrire des livres, mais il faut le faire de manière très longue. Si on avait eu beaucoup de temps à disposition, qu'on avait les deux été dans cette envie commune d'apprendre quelque chose, on a appris beaucoup l'un de l'autre. Et je pense que c'est indirectement souvent que les chemins, surtout dans des rencontres comme ça, qu'on arrive à finalement à se comprendre, qu'on arrive à se transmettre quelque chose. Elle m'a transmis pas mal de choses, mais parce qu'on parlait de la manière dont elle procédait, mais c'était radicalement différent, parce que c'était quelqu'un qui se documentait énormément. Ses romans historiques sont super documentés. Elle passait des mois en bibliothèque, elle amassait une pile de documents, et moi, en fait, je suis pas du tout dans la même veine, parce que j'essaye pas du tout de retranscrire ni une époque, ni vraiment une société de manière cohérente. Donc pour moi, le réalisme est pas du tout une clé de succès, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, c'est pas une option esthétique. Pour Anne Cuneo, ça l'était. Et donc, on travaillait pas la même chose. Mais par contre, on avait énormément de choses à se dire.
Mais vous avez tout de même une certaine assurance. L'idée de ne pas aller demander des conseils, ça vient d'une certaine assurance que vous avez, que vous affichez en tout cas.
Mais je pense qu'elle ne me les aurait pas donné si je les avais demandé, à mon avis.
Sur l'assurance, répondez plutôt sur l'assurance, Quentin.
Oui, j'ai une certaine assurance, mais j'ai toujours beaucoup plus d'assurance quand j'ai un micro devant moi, parce que je trouve que ça me rassure beaucoup. Dès qu'on me l'enlève, je suis un petit peu comme si on enlevait ma béquille. Donc là, je suis un peu plus, je balbutie un peu plus. C'est vrai que je fourche beaucoup moins en fait quand je suis à la radio. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient. C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose d'assez amusant finalement. On est là dans un studio, en même temps il y a plein de gens qui nous entendent. Il y a une sorte d'indiscrétion comme ça, assez excitante et qui me rend très à l'aise, curieusement.
Qui a dit « Je porte toujours deux masques » ?
C'est pas moi.
Non, portez pas toujours deux masques,
non.
Tiffany.
Moi, j'aurais pu le dire, ouais.
Oui. Le premier pour les autres, le second pour moi-même.
Oui, c'est vrai, je crois qu'on se ment. D'ailleurs,
c'est
le
une
masque...
belle phrase, mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Ouais, au-delà d'une belle phrase, c'est aussi le thème du masque est vraiment quelque chose qui a traversé mes 4 ou même mes 5 premiers romans, donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup retravaillé. Ça, je pense que ça pourrait être dans le premier roman, ou alors je l'ai peut-être dit comme ça à la radio.
C'est un truc que vous dites dans Migros Magazine, en novembre 2012.
Ah bah peut-être que je me suis... alors là, ça je m'en rappelais plus, mais...
Bah oui,
mais oui, ça veut dire
ça,
que
oui.
D'une part, on se ment, non seulement on ment beaucoup aux autres, mais on se ment généralement à soi-même. Et on aime bien aussi se projeter une image de soi-même, on aime bien... C'est aussi de l'auto-persuasion souvent, hein. On se dit, mais là je suis absolument capable de le faire alors qu'on va rater, on va... c'est des choses qu'on fait, je pense qu'on se ment souvent... Pas forcément pour des mauvaises raisons, parce que c'est difficile de mettre le doigt sur son visage finalement. Ce sera peut-être une autre phrase que Migros Magazine va ressortir, ça, le doigt sur son visage. Et non, mais c'est difficile vraiment de se cerner. Beaucoup de gens, si vous demandez dans la rue vous êtes qui, c'est la pire des questions. Avant dans le speed dating, c'est vraiment, j'avais voulu poser une question de merde, j'aurais dit mais t'es qui ? Ah, t'as où les vaches ? Bon, mais c'est très difficile, on répond comment à cette question-là si on veut être sincère ? Dès qu'on veut être sincère, dès qu'on place la sincérité comme condition de la discussion, ça devient très difficile. Et c'est pour ça qu'on met des masques, qu'on va essayer de se rigidifier les traits du visage qui sont souvent souples, et on parlait avant des choses qui sont genrées, qui sont arrêtées, et ben on va essayer justement de créer une sorte de genre, de créer une sorte de style, et ça va permettre de répondre à ce genre de questions beaucoup plus facilement.
Tiffany Beauvais-Clamette, je vous vois très intriguée par votre nouvel ami l'auteur Quentin Mouron. Il vous intrigue comme ça, ou c'est le regard que vous avez, ou c'est ce qu'il raconte sur l'idée qu'on se ment un peu ?
Non, je pense pas que ça m'intrigue, je pense que ça m'intéresse, et que j'essaie de transposer ce qu'il disait à moi, voir si ça marchait sur moi.
Mais parce que par exemple, la tournée des scènes parisiennes que vous avez faite avec les Deschiens, là vous auriez pu par exemple rencontrer un univers où on se ment un peu, ou un univers où pas précisément on porte des masques, on porte de... Non ?
Bah, je pense pas, non, parce qu'en plus c'est une super équipe. Oui, ce que j'ai connu de Paris dans les, disons, dans le milieu un peu... Oui, j'ai rencontré un peu des gens un peu importants qui savent qu'ils sont importants.
Et vous êtes propulsé là-bas, en l'occurrence.
Oui, oui, et qu'ils le jouent, mais oui, mais ils étaient tellement, tellement charmés par mon authenticité suisse. Et je sais en jouer parce que je suis très maligne. Mais oui, mais j'étais d'accord de jouer à ça, moi. Il n'y a pas de problème.
Donc maintenant, on suit le parcours de votre spectacle en Suisse romande, qui est applaudi par les critiques, ça il faut quand même le dire, c'est unanime, hein, que ce soit mes collègues de la télévision ou de la radio, mes confrères de la presse écrite, tout le monde salue le spectacle que vous avez fait, ça a dû vous faire plaisir, c'est assez rare qu'il y ait comme ça un emballement autour de quelqu'un qui se lance dans un style dans lequel on vous avait jamais vu, enfin, c'est nouveau.
Bah, moi ce qui me fait le plus plaisir, si en fait... Bien sûr qu'on m'a déjà vu là-dedans, mais
jamais toute seule.
Jamais
toute
seule.
Avec vos textes.
Jamais toute seule. Et le truc le plus intéressant pour moi, c'est que le spectacle a été, salué par une certaine tranche des médias. Je sais pas comment on dit ça.
Oui, il a été salué, oui.
Oui, mais aussi par des gens avec qui je travaille dans le milieu contemporain. Moi, j'évolue plutôt dans le milieu contemporain, théâtre allemand. Et puis, par mes amis improvisateurs, etc. Et puis, j'ai l'impression d'avoir réussi à faire un spectacle dans lequel je pouvais faire exister les différents... aspects de ma pratique théâtrale, c'est-à-dire que je fais beaucoup d'impro, j'évolue dans le milieu contemporain, j'ai joué avec les déchets, en fait je fais plein de choses très différentes. On aime souvent que les gens appartiennent à une famille, et puis moi c'est quelque chose avec quoi j'ai de la peine par moment à composer.
Et parce qu'il y a la dimension très populaire de l'improvisation théâtrale,
exactement.
Assez spécifique, voire élitiste, du théâtre contemporain, et vous avez réussi à faire le lien entre les deux.
Oui, alors je l'ai pas fait consciemment, mais disons que moi c'est deux univers dans lesquels je me sens bien, qui m'habitent en permanence, et je voulais faire avec ces deux univers là un truc qui me plaise à moi, et je suis ravie que ça ait touché tant de gens différents.
Et là, l'étape suivante, c'est de retourner sur les scènes parisiennes que vous avez connues avec les Deschiens pour montrer votre propre spectacle cette fois.
Oui, pourquoi pas. Là, pour l'instant, je suis déjà en train de préparer un peu la tournée en Suisse romande, dans des salles très différentes. Justement, il y a des lieux très contemporains et des lieux, disons, plus
populaires,
dédiés à l'humour. Donc ça me convient particulièrement. Je suis très heureuse. Et quand j'aurai ma captation, je vais essayer évidemment d'aller tourner un peu en France.
On pourra dire Tiffany Beauvais-Clamette humoriste, ou c'est un terme que vous ne souhaitez pas avoir?
Mais je comprends pas très bien ce que ça veut dire, je crois. Et puis,
parce que Zouk, par exemple, on peut dire de Zouk que c'est une humoriste.
Ben, il y a des gens qui le disent. Moi, je trouve pas que ce soit spécialement une humoriste.
Pourquoi?
Oui, parce qu'elle est drôle, mais elle est tellement tragique. Et puis, pour moi, alors c'est ma perception. Hein. J'ai l'impression qu'un humoriste, il travaille pour être efficace. Il cherche des punchlines ou le rythme doit être très efficace. Et puis moi, ce que je vois des spectacles de Zouk et ce que je vois aussi du mien, c'est aussi des longueurs. C'est aussi une sorte de fatigue dans le fait d'aller au bout d'une proposition. Et pour moi, ça, je trouve pas que ce soit forcément un procédé d'humoriste.
D'accord. Voilà. Donc quand je sais plus quel quotidien roman disait il faudrait peut-être enlever un quart d'heure à votre spectacle, non, c'est volontairement une longueur, c'est ça?
Mais évidemment. c'est une remarque qui m'a fait un peu rigoler, parce que je me dis bah non, justement, si précisément ce journaliste qui est au demeurant très sympathique et qui a écrit un super article a trouvé que c'était trop long, c'est très bien, mais s'il a été touché, c'est précisément aussi parce que c'est long. Et s'il a ri, c'est aussi précisément parce que c'est long.
Quelle serait la réaction de Quentin Mourant le jour où on lui dit « Ah bah le roman était bien, mais il faudrait enlever 50 pages
». Ouais, faut déjà savoir où les prendre. Moi j'aimerais bien qu'il me donne les ciseaux et qu'il les coupe. Mais ça c'est un peu, il y a trop de notes. Je veux dire, la seule chose, ça sert.
Comment ça, il y a trop de notes?
C'était cette remarque de Céleri qu'on prête à Céleri sur Mozart. Il disait « Mais il y a trop de notes chez Mozart ». Bon, bien sûr, là peut-être il y a des choses très longues, mais il y a des romans aussi très longs. On s'emmerde parfois, c'est le cas de La recherche du temps perdu, c'est le cas de plein du Voyage au bout de la nuit aussi des fois. C'est des romans, bien sûr, on pourrait, mais où est-ce qu'on coupe? S'ils sont longs et chiants par moment, ça veut aussi dire quelque chose. Ça fait aussi partie de leur grandeur. Dans certains chefs-d'œuvre, il y a des moments où on n'est pas en train de, on n'est pas en extase. Il y a des fois où on soupire un peu. Ça laisse aussi la possibilité, en relisant ces textes-là, de redécouvrir que finalement ces passages qu'on a trouvés longs, en les relisant, sont encore bien meilleurs que les autres. Et je crois que la complexité d'une œuvre, c'est ça. Mais ça ne m'étonne pas forcément, parce qu'on aime ce genre de remarques. Voilà. Pour l'instant, c'est plutôt les quotidiens en général qui coupent leurs pages, pas les auteurs.
Evelan, bonne réponse. Réponse de Quentin Mourant. Il est pas mal, hein. Il a l'habitude de la critique.
Il s'exprime mieux que moi.
Oh non, mais je crois qu'on forme un très beau tandem.
C'est beau ce que vous dites, Quentin Mourant. J'avais une dernière phrase, elle est facile. J'ai une passion pour l'ordinaire. C'est du...
Moi.
Tiffany Beauvais-Clamette, bien sûr, vous nous l'avez dit, expliqué. Tiens, deux mots sur où est-ce qu'on vous retrouvera. On a compris, Quentin, qu'il y avait un nouveau roman en préparation, c'est ça?
Oui, en tout cas, je suis en train de...
Vous l'avez dit en creux en début d'émission.
Oui, absolument, mais j'ajourne en fait le moment du point final, tout simplement parce que c'est un roman très dense, très compliqué, qui est à la
avec
fois...
Avec des pages en trop.
Avec des pages beaucoup de pages en trop, qui est drôle, bête, méchant, et que j'ai chaque fois besoin de retravailler. Donc il est toujours pas prêt, mais là, dans l'actualité proche, il y aura la sortie de mon livre aux États-Unis, au Canada et en Angleterre au mois de juin, et ensuite en Allemagne, enfin de Trois gouttes de sang toujours, et Un nuage de coke, en Allemagne et en Suisse allemande au mois de septembre, et en Italie, dans le courant de l'automne. Donc c'est ça.
Quentin Mourant s'internationalise. Tiffany Beauvais-Clamette, vous nous avez parlé de cette tournée romande dans des lieux divers. Vous avez quelques dates à nous annoncer?
Les dates sont pas encore bloquées, sans discussion, mais je peux vous dire que je serai à Sion, à Martigny, à Genève, à Saint-Gervais, à Lausanne, à l'Arsenic.
Tiffany s'internationalise aussi.
Ah, mais Claire, oui. Je vais dans d'autres cantons, j'en peux plus, c'est génial.
Je vois ça, c'est impressionnant.
Non, et je suis en discussion déjà avec un lieu ou deux en France, mais voilà. Rien de concret.
Très bien, ça nous réjouit. Merci beaucoup Tiffany Beauvais-Clamette, Quentin Moron d'être venu dans cette émission, faire votre premier rendez-vous tous les deux ensemble. À une prochaine. Merci pour l'invite.
Au revoir.
Le générique de cette émission, merci à Mathias Bruniman qui réalisait, Marine Regard, notre assistante de production, Jean-Baptiste Roumains à la programmation musicale. On se réjouit de vous retrouver demain en nouvelle diffusion entre 15h et 16h sur la première et en direct dès lundi à 14h. Passez un bel après-midi, un bon week-end sur la première, il est 15h.